Mesdames, messieurs, bonjour, c'est Jacques et merci à vous d'être à l'écoute de CFM Radio, votre radio hein, à l'esprit rock et radio locale et pour laquelle nous nous battons actuellement pour qu'elle survive et continue d'apporter au creux de vos oreilles le pouls de la vie locale. Avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir monsieur Jean-Marc Balaran, le maire de Sainte-Croix et président de l'association des maires et élus locaux du Tarn, une fonction pour laquelle nous le recevons en studio aujourd'hui. Bonjour monsieur Balaran.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous pour parler voilà, d'une association qui regroupe quand même plus de 314 communes hein, du département. Donc c'est le nombre de communes que l'on recense sur notre département. Une association que vous présidez et qui a quoi comme objectif monsieur Balaran?
Alors l'association des maires a plusieurs objectifs. La première fonction de l'association, c'est de porter la voix des communes. Donc on est un des interlocuteurs censés porter la voix des communes et défendre leurs intérêts. Et ensuite, donc, notre association a une mission de service aux communes et aux élus. Donc, on a chez nous plusieurs services. Donc, comme la plupart des associations des maires, on a un service formation. Donc, on va former les élus sur les sujets du moment. Donc, une des dernières réunions était sur le transfert de l'eau potable aux communautés de communes, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose, la formation est quelque chose qui est très... Toutes les associations des maires départementales, pratiquement, ont cette mission de formation. L'autre mission très partagée par toutes les associations, c'est la mission juridique. Donc on a une juriste à l'association des maires qui apporte le conseil juridique nécessaire aux maires quand il y a une question qui se pose et qu'ils ne savent pas régler eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment les deux, la base de toutes les associations. Et dans le Tarn, on est un peu différent parce qu'on est un peu plus structuré que d'autres associations. Donc ça, c'est lié à l'histoire départementale. Le sénateur Pastor, qui avait monté cette association, avait souhaité en faire un outil un peu plus solide pour servir les communes. Et donc, on a, à côté de ce pôle formation et de ce pôle juridique, un pôle ingénierie financière. Donc, on a une technicienne qui apporte des conseils pour monter un budget, pour faire une étude financière, pour faire une étude prospective. Enfin, donc, on a sur les bases fiscales, enfin, sur plein de sujets financiers qui intéressent les maires. Et ensuite, on a un service numérique, donc qui est le service le plus étoffé en termes de travail de l'association, qui apporte des services aux mairies dans le domaine numérique. Donc, on apporte des services assez courants, où, par exemple les clés de signature. On apporte des pour certifier le transfert des délibérations à l'État. On peut apporter aussi, par exemple, un service sur les marchés publics. Voilà, plein de services numériques. On aide les mairies à respecter la RGPD, donc la réglementation sur la protection des données. Et on a ensuite dans ce service numérique, mais un peu à part, deux techniciens qui apportent la maintenance des logiciels Berger-Levrault. Donc les logiciels Berger-Levrault sont des logiciels métiers au service des secrétaires de mairie. Et donc on a deux techniciens qui apportent la maintenance de ces logiciels.
Est-ce que c'est obligatoire pour une municipalité d'être adhérente de cette association?
Alors, toutes les municipalités sont adhérentes, tarnaises sont adhérentes de l'asso, à l'exception d'une seule. Qu'est-ce que ça apporte? Déjà, ça apporte un accès à tous ces services. Donc, mm-hmm. c'est des services qui sont la plupart du temps... Si on écarte la maintenance des logiciels, qui est une prestation payante, et la réglementation RGPD, qui est aussi une prestation payante, la quasi-totalité des services de l'association des maires sont des services gratuits qui sont payés par la cotisation des communes à l'association et par la subvention conséquente que nous donne le département du Tarn. Donc, le premier intérêt, c'est le service, et le deuxième intérêt, c'est de côtoyer ses collègues et d'apprendre d'eux. Et puis, on travaille beaucoup en commission, donc nos élus participent aux commissions pour parler de formation, de ruralité, de fiscalité. Mmh. Et donc, en partageant entre nous, ça nous permet de porter une voix pertinente pour les communes.
Et ça permet aussi de partager des expériences, de partager des réflexions, des questionnements. L'an dernier, il y a une structure interne à cette association des maires et élus locaux du Tarn qui a vu le jour, c'est Active ADM 421. Qu'est-ce que c'est? Quel est son objet?
Alors, en fin de compte, Active ADM 421 est une fille de l'association des maires, mais on a souhaité développer, donc je vous en parlais, la prestation de maintenance des logiciels vers l'euro. Donc ça, c'est une prestation aujourd'hui qui est une prestation commerciale et qui est soumise à TVA, alors que les activités de notre association ne sont pas soumises à TVA. Donc les services fiscaux qu'on a interrogés nous ont fortement conseillé de créer cette structure qui, elle, va être assujettie à TVA et fonctionne comme une structure commerciale classique. Mais c'est une fille, enfin, elle est totalement dépendante de l'association.
De l'association, oui. Alors, qui dit association, dit donc un fonctionnement associatif. Vous êtes le président, il y a un conseil d'administration aussi qui est composé par qui?
Un bureau et un conseil d'administration, oui.
Qui compose ce bureau et
alors,
ce conseil?
Alors, on doit être, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je crois qu'on est 33. Membre du conseil d'administration, je suis pas certain de mon chiffre.
Bon, une trentaine, on va dire une trentaine.
Une grosse trentaine. Et donc, c'est des représentants de tous les secteurs du département. De la Concorde et donc du Nord-Sud et de l'Est à l'Ouest et de Valence d'Albi à Saint-Sulpice.
Ouais. Autant des communes, on va dire,
donc
rurales
toutes
ou plus urbaines.
Toutes les communes rurales ou plus urbaines, sans notion d'appartenance. Enfin, avec une représentativité de toutes les sensibilités. Quoi. L'association des maires fonctionne de façon consensuelle. Et quand un élu siège à l'association des maires, il vient porter la voix des communes. Et on n'est pas dans une discussion partisane.
Est-ce que c'est un membre, une voix, ou bien il y a une notion, je ne sais pas moi, de poids démographique ou de poids économique?
Non, on est dans... Alors, toutes les associations des maires ne fonctionnent pas pareil, mais nos statuts à nous donnent une voix à toutes les communes, que ce soit une toute petite commune ou Albi, tout le monde a une voix. Thank you.
Jean-Marc Balaran, le président de l'association des maires et des élus locaux du Tarn, avec nous sur CFM Radio. Aujourd'hui, on parle de l'objet et du fonctionnement de cette association qui représente un peu la voix des élus tarnais qui se réunissent régulièrement pour discuter, échanger, se former ensemble. Nationalement, il existe aussi une association qui représente les maires de France. Oui. Il y a des réunions qui sont organisées régulièrement dans ce sens-là. Quels sont vos liens, par exemple, avec ce type de représentation nationale ?
Alors, nos liens sont évidents. L'Association des maires de France nationale est le regroupement des associations départementales. Et quand une commune cotise à l'Association des maires du Tarn, il y a dans la cotisation qui est versée à notre association une partie qui représente à peu près... ça doit représenter à peu près sur le montant des cotisations 150 000 euros de cotisation. On doit reverser à peu près 50 000 euros de cotisation à l'Association nationale. Donc, qui est inclus dans la cotisation payée par la commune. Et donc, on bénéficie par cette adhésion nationale également des services du bureau parisien, donc avec un service relativement important de juristes, de financiers, d'avocats. Donc, quand l'échelon tarnais ne s'est pas réglé, il arrive assez souvent qu'on fasse appel à l'échelon national.
Ouais. Bon, c'est vrai qu'eux, ils ont peut-être l'opportunité de prendre leur café ou de déjeuner avec quelqu'un qui sort de Matignon ou de Bercy. Ça peut faciliter les choses. Et parlant de ça, vos relations, on va dire directement, entre l'association des élus locaux du Tarn et, disons, l'État. Quels sont les liens que vous avez du coup avec le gouvernement, avec l'État, avec la gestion des collectivités ?
Donc chacun reste à son niveau. Donc moi, mes relations sont essentiellement des relations départementales, donc notamment avec le préfet et tous les services de l'État.
Le président du département du Tarn aussi, Monsieur Rameau en l'occurrence aujourd'hui.
Oui. Mes collègues présidents d'intercommunalité, mais beaucoup avec l'État et les administrations nationales dans le département, comme notre président national, donc David Wiesner, a des relations régulières avec l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Élysée, l'ensemble des grandes administrations. La loi est bâtie la plupart du temps en concertation avec l'association, enfin quand elle concerne les communes, avec les associations des maires.
Alors, pour
de temps en temps en opposition aussi.
Oui, il faut pour travailler avec tout le monde. Pour résumer un peu, on peut dire que votre association permet à des élus locaux, à des maires, de dormir un peu plus tranquille, de savoir que des problèmes ou des questionnements qu'ils peuvent avoir des solutions en interne. Vous qui les côtoyez presque au quotidien, que vous disent les maires aujourd'hui ? Il y a encore quelques semaines ou quelques mois plutôt, on parlait d'une forme de désarroi, de démotivation des élus à l'échelle nationale, hein, qui rencontraient même des problèmes à dire ouvertement, qui sont maires. Est-ce que dans le Tarn, c'est le cas ?
Alors, déjà, je suis pas sûr de participer à la qualité du repos de mes collègues. mais qu'est-ce que me disent mes collègues et qu'est-ce que je dis avec eux ? L'inquiétude aujourd'hui, c'est essentiellement la préparation du budget 2025 avec l'effort qui va être demandé, enfin, l'effort qu'on évoque à faire de la part des communes, qui est un effort conséquent.
De quel ordre ?
Alors, c'est des chiffres qui sont difficiles à ça parle pas beaucoup parce que les chiffres sont tellement importants. Ça va représenter un effort à peu près de 8 milliards d'euros sur les 60 demandés. Donc, à condition qu'on en arrive...
À l'échelle de toutes les communes, là, on ne parle pas que du Tarn, là.
Ça, on parle de l'échelle nationale.
À l'échelle nationale, donc de 36 000 communes à peu près. Hein,
oui. Et donc, cet effort donc qui va impacter les collectivités par exemple avec un moindre remboursement de la TVA que paient les communes, avec un effort conséquent qui va être demandé au niveau de la cotisation pour la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux, par exemple des fonds, un fonds particulier qui s'appelle le fonds vert. qui est un fonds destiné à accélérer la transition écologique. Donc ce fonds vert va être amputé de 1,5 milliard d'euros, pardonnez-moi. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui inquiètent. Le département va lui être appelé pour 10 millions d'euros de contribution de solidarité. Donc c'est vrai qu'on a... On a quelques inquiétudes sur notre capacité à monter des projets, puisque il est difficile aujourd'hui d'appeler davantage d'impôts chez nos habitants, chez nos concitoyens. Et donc, si on a moins de financement extérieur, on aura moins de capacité à faire. Donc, c'est une inquiétude aujourd'hui pour les projets que nous avions et pour les services qu'on peut apporter à nos habitants.
Donc, faire autant, voire mieux, avec moins de dotations et donc d'argent, c'est un peu à ça que vous êtes confronté dans une vision d'avenir, si les choses en restaient là.
C'est un peu ce qu'on nous prévoit. Je ne sais pas comment se terminera la discussion budgétaire. Mais c'est vrai que la plupart des élus sont très inquiets, oui, d'autant plus que à côté de cet effort qu'on demande aux communes, l'État va couper notamment dans son nombre de fonctionnaires et notamment dans le nombre de postes d'enseignants dans l'école primaire. Et donc en zone rurale, en département rural comme est le Tarn, parler de perte de postes d'enseignants, c'est parler de fermeture de classes. Et ça, les maires, ils sont extrêmement sensibles. Donc, c'est des choses qui nous inquiètent, bien sûr.
Ouais. Bon, quelles sont vos marges de manœuvre ou idées pour inverser la tendance? Parce que peut-être, nous, ça va nous tuer aussi, parce que les radios associatives, elles sont concernées par une baisse de 30%. Exactement. Donc, c'est pratiquement un tiers de nos budgets aux 750 radios associatives qui existent en France qui va être amputé par ce fonds-là. Et donc, nous sommes à la recherche d'idées pour contrecarrer ça. Vous, en tant que maire, qu'est-ce que vous imaginez faire pour que les moyens soient au minimum maintenus, voire augmentés pour certains?
Ben aujourd'hui les marges de manœuvre ne sont pas du tout les mêmes d'une commune à l'autre. La richesse des communes est très variable. Certaines sont relativement prospères, quand d'autres ont beaucoup plus de difficultés, en fonction de la population, des rentes de situation que chacun peut avoir, de la capacité contributive de ses habitants. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent faire varier la capacité à faire d'une mairie. Qu'est-ce qu'on peut faire quand l'État se désengage? Il est assez fréquent que les collectivités locales prennent le relais. Là, c'est vrai que si l'État se désengage et si en plus on perd des ressources au niveau communal, l'histoire va se compliquer beaucoup.
Tous.
Je suis bien incapable de vous dire quelles solutions seront proposées. Aujourd'hui, je pense que la plupart des maires ont l'obsession d'appeler le moins d'impôts possible, donc uniquement ce qui est absolument nécessaire. Je pense que simplement par la crise, par exemple au niveau de l'énergie, la nécessité de faire des économies a été prise en compte et toutes les économies qui pouvaient être faites, au moins les plus importantes, ont déjà été faites. Donc je suis bien inquiet justement sur le... je crois qu'on est... Comme on dit chez moi, on est peut-être un peu à l'os.
Ah oui, eh bien, écoutez, on le dit aussi à nos micros, nous, radios associatives, qui craignons de voir disparaître ce paysage médiatique bientôt. Et même une radio comme CFM, peut-être dans quelques mois, cessera d'émettre à cause de cette loi. Donc forcément, ça inquiète tout le monde. Et si on met de côté, on va dire, les notions budgétaires, qui sont pourtant très importantes, hein, sans argent, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles à faire au sein, on va dire, de l'Association des maires de France. Est-ce qu'il y a des projets, des envie, des projets un peu collectifs qui mûrissent dans les têtes?
Alors, plus que des projets, c'est d'autres préoccupations, et notamment une qui est essentielle, c'est le ZAN. Donc le ZAN pour zéro artificialisation nette. Donc l'État nous demande de revoir nos documents d'urbanisme pour que dans la période 2021-2031, nous consommions 50% de moins que ce qu'on a consommé sur la décade précédente. Donc ça fait des capacités à bâtir qui sont relativement diminuées. Et donc au-delà, l'objectif, c'est qu'en 2050, on n'artificialise plus. Donc ça veut dire qu'il faudra reconstruire sur ce qui existe, ou il faudra Pour construire sur un terrain vierge, il faudra renaturer une autre parcelle. Donc ça va faire des capacités à construire réduites. Ça va imposer d'autres façons de bâtir. Ça va imposer des coûts bien supérieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui. Construire sur un terrain nu, c'est bien moins cher que de construire sur une friche ou de faire une démolition. Voilà. Donc c'est des choses qui sont des changements radicaux. Si on va au bout de cette ambition-là, ça va générer beaucoup de changements. Et ça aussi, c'est une inquiétude, parce qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment que, puisque c'est une diminution, on divise par deux pour l'immédiat la consommation de la décade précédente, ben c'est un peu une prime à ceux qui ont déjà beaucoup consommé.
Oui.
Même si on divise, si on a une grosse part de gâteau, on la coupe en deux, ben il en reste encore. Quand on n'a presque pas consommé, si on coupe en deux, il ne reste plus rien.
Donc ils ont déjà un peu une espèce d'avance. Et là, je convoque peut-être votre sentiment personnel, mais j'ai l'impression, en vous écoutant comme ça, que ce type de projet ou de loi, je ne sais pas comment l'appeler, sont prises par des gens qui ne connaissent pas forcément les réalités locales. Est-ce que vous partagez cela ?
Il y a parfois le sentiment que la loi pourrait être mieux écrite, mais l'ambition de départ, elle est légitime, c'est-à-dire de demander à être plus économe sur la consommation d'espaces naturels. Je pense que c'est normal. C'est d'autant plus normal que je pense qu'on peut bâtir, enfin, par exemple, puisqu'on est à Cordes, les anciens savaient faire de la densité, on peut bâtir et loger des personnes de façon tout à fait agréable et satisfaisante en utilisant beaucoup moins d'espace que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est absolument faisable, qui n'est pas une punition. Une punition, quoi. Moi, je suis persuadé que quand l'urbaniste travaille bien, on peut vivre sur des terrains bien plus petits que ce qu'on a aujourd'hui dans nos zones pavillonnaires. Après, c'est la façon de monter la loi qui est un peu perturbante, parce que on ne parle pas de projet, on ne parle que de chiffres. Et bon, ça va nous amener, je pense, à quelques difficultés. On en est aujourd'hui à la révision du schéma régional, donc qui est en cours. La prochaine étape sera la modification des SCOT, donc des schémas de cohérence territoriale, qui eux-mêmes s'imposent au PLU qu'il y a dans les communes ou dans les communautés de communes. Donc c'est un peu un système de poupée russe.
Et donc
on en est à la première poupée, le Zradet. Quand on nourrira cette première poupée, la deuxième, ce sera le SCOT. Donc par exemple chez nous, et donc ça vaut pour Cordes, puisqu'on est tous les deux, Cordes et Sainte-Croix sont dans le même SCOT. On a prescrit il y a quelques jours la révision de notre SCOT. Donc c'est quelque chose qui va durer, qu'on devrait avoir terminé pour 2007, mais on a l'impression que les délais sont intenables. Et derrière, on va passer à la révision des PLU ou des PLUI. Donc, par exemple, Cordes, qui vient d'écrire son PLUI, va devoir le réviser assez rapidement ouais. pour rentrer dans la contrainte que donnera le SCOT. Et ça, c'est un vrai souci. Franchement, l'urbanisme est un énorme souci pour les élus d'abord, mais je pense que quand les habitants verront les conséquences que ça a, ça va alerter pas mal d'habitants.
Eh bien, on verra comment les réactions se feront au sein aussi de votre association. J'imagine que des projets comme ceux de la 69, ceux dont vous venez de parler, ça doit occuper beaucoup d'esprit. Est-ce que vous arrivez vraiment à fédérer un peu tous les maires dans une vision un peu globale du Tarn de demain ? Parce que chacun vient pour parler et se prémunir des difficultés de sa commune, mais est-ce qu'il y a une vision globale qui peut être partagée entre les 314 communes du département du Tarn?
Alors, on n'est pas d'accord. Les communes tarnaises, je crois que une des plus petites, c'est Montoriol, avec, je crois, 35 habitants.
35, ou quelque ouais. chose comme...
Donc, la plus grande, c'est Albi, qui approche les 50 000. On a bien sûr des difficultés, des contraintes différentes. On a des ambitions différentes. On a des intérêts parfois différents. Il n'empêche que qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous une ambition pour le département. Et on a aussi, je crois, dans l'esprit de tous les élus, le fait communautaire aujourd'hui est quelque chose qui est acquis. Donc on ne remet pas en cause l'existence de la communauté de communes ou de l'agglomération. Et donc aujourd'hui, les maires ont pris l'habitude de travailler ensemble. Et l'intérêt n'est pas forcément d'avoir la même chose que la commune voisine, c'est essayer de se répartir les équipements ou essayer de répondre aux besoins de nos populations en réfléchissant au bassin de vie, en réfléchissant à la complémentarité. Et je crois qu'on y arrive relativement bien. Aujourd'hui, c'est des discussions qui sont, je pense, en train de s'éteindre gentiment. Aujourd'hui, les maires sont habitués à travailler en commun.
Au sein de l'association des maires.
Et au sein de l'association des maires aussi.
Voilà. Et au sein de cette association, vous nous avez parlé des différentes missions, des différents services, des formations aussi qui sont proposées. Il n'y a pas de service spa, bien-être, massage. Ça veut dire que tous les maires et élus locaux du Tarn sont contents de la fonction qu'ils occupent. Parce qu'il y a encore quelques mois, on entendait à l'échelle nationale des maires qui presque avaient envie de démissionner parce que sa voiture caillassée, sa maison même incendiée. Dans le Tarn, est-ce que ça se pose au sein des 314 ?
On a toujours, sur la durée du mandat, des maires qui démissionnent pour une raison ou pour une autre. Donc on a parfois de lassitude, parfois du découragement. La lassitude et le découragement, l'exemple, c'est la maire de Pibrac. Je ne sais pas si vous avez vu passer le...
Non.
Pibrac est une commune d'un peu moins de 10 000 habitants dans la Haute-Garonne. Et sa maire vient de démissionner en parlant de la difficulté, donc de sa fatigue, de la difficulté à faire, de la complexité. Elle a renoncé à son mandat il y a tout juste une semaine, ou peut-être pas. Et donc, cette démission a fait parler. Aujourd'hui, on a toujours quelques maires également confrontés à des agressions verbales ou physiques, très rarement, mais c'est arrivé quelquefois. Effectivement, mais la grande majorité, la très grande majorité des élus et des élus tarnais adorent son mandat et le service à sa commune et à sa population. Et aujourd'hui, il y a quelques difficultés sur le statut de l'élu, sur des concitoyens qui des fois se comportent un peu inconsommateurs et sont des fois exigeants au-delà de ce qu'ils devraient l'être. Ça arrive de temps en temps, mais globalement, quand on est maire, je pense qu'on sait qu'on est maire et qu'on est utile. Et ça donne de la force pour résister aux quelques petites misères qu'on peut avoir.
Un maire touche combien à peu près comme rémunération aujourd'hui ? Il me semble qu'il y a des différences en fonction de la taille de la commune, des choses comme ça ?
Non, aujourd'hui le mandat de maire se féminise de plus en plus. Il se rajeunit. Et l'époque où on restait maire pendant 40 ans, je pense, est en train de s'éteindre. C'est aujourd'hui On est maire pendant un mandat, deux mandats, trois mandats, mais on ne passe pas sa vie maire. C'est de plus en plus quelque chose qui se féminise. Donc la loi a beaucoup fait pour ça, puisque la parité obligatoire a eu un effet, au moins sur le genre des conseillers municipaux, puisque rien n'impose aux maires d'être une femme ou un homme. Donc du coup, le monde des maires, proprement dit, reste encore très masculin. Mais dans les conseils municipaux, donc il y a la parité. La question se pose encore pour les communes de petite taille, où la parité n'est pas imposée, donc c'est quelque chose qui est en débat. Ce ne sera sans doute pas le cas pour les prochaines élections municipales de 2026. Après, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est d'inciter tous ceux qui s'intéressent au fait communal et à la vie de leur commune à y aller, parce que c'est un mandat qui est passionnant, Et effectivement, s'il apporte quelques, s'il a quelques difficultés, il apporte beaucoup de plaisir à ceux qui se sont engagés dans ce mandat d'élu communal.
Cet été à Vahour, c'était au mois d'août, des communes nationales qui avaient adopté un peu, on va dire, le chemin de la participation citoyenne se sont réunies. On le voit aussi dans cette partie du nord du Tarn, la commune de Vahour, celle de Rousserolles aussi, qui a adopté ce mode de fonctionnement-là. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? C'est quelque chose qui semble intéressant, nouveau? Comment vous analysez ça?
Intéressant, sans aucun doute. Reproductible à grande échelle, je ne le sais pas. La concertation est d'autant plus facile qu'on n'est pas trop nombreux.
C'est sûr.
Dès que la population devient importante, c'est plus difficile. Mais toutes les astuces pour développer la participation des habitants sont regardées avec intérêt. Donc la plupart des maires et des collectivités essaient de favoriser. Donc c'est des conseils citoyens. Il y a plusieurs systèmes pour essayer de donner la parole aux habitants.
Alors on a parlé un peu de budget, mais plutôt de ruissellement, celui qui descend de Paris vers ici. Moi j'aimerais, parce que ça, c'est souvent une question que les gens se posent, quel est le salaire d'un maire?
Alors le salaire d'un maire si on considère que dans une petite commune, donc je vais vous le dire puisque c'est mon cas, il est de l'ordre de 1000 euros mensuels. Donc le maire peut ne pas prendre la totalité de l'indemnité qu'il... C'est pas un salaire, c'est une indemnité.
Une indemnité, ok.
Donc le maire peut ne pas prendre la totalité de l'indemnité qui lui est proposée. Par exemple, moi je prends j'ai une indemnité de 600 euros mensuels. Beaucoup de mes collègues sont dans le même cas que moi. Puisque c'est le budget communal qui paye, sur des toutes petites communes, on a toujours des scrupules à prendre l'intégralité de l'indemnité qu'on aurait le droit d'avoir. Et puis quand on est sur des grandes communes, si on considère que le travail de maire d'une grande ville, c'est le travail d'un cadre de très haut niveau, c'est sûr que le mandat de maire est loin d'être payé au niveau de ce que la capacité des personnes leur permettrait d'avoir comme salaire dans le privé, quoi. Donc on ne fait pas maire pour l'indemnité qu'on peut avoir, c'est une évidence.
Eh bien, c'est pour ça que quand on pose la question dans un collège aux enfants, qu'est-ce qu'ils veulent faire demain, ils préfèrent être youtubeurs que maire. En tout cas, maire de village pour l'instant. Merci beaucoup, Monsieur Balaran, d'avoir répondu à mes questions et d'être venu au studio de Corde. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des maires et des élus locaux du Tarn. Merci beaucoup.
La familia, los amigos, a cuidado va cambiando. Dime lo que tú piensas, si tu vida cambiará. Con amor y libertad, cállate la boca. Va a cambiar.
Vivre ensemble, et si on disait, vivre ensemble, et si on pouvait, vivre ensemble, je crois qu'on dirait.
ولا غربي دمي حربي عروبي عدوة مكتوبي يدي في قلبي افريقي ولا غربي دمي حربي عروبي عدوة مكتوبي
Chez nous c'est comme ça, chez toi c'est chez moi.
Pourquoi tu n'entends pas?
ça divise, souvent ça rassemble.
Vivre ensemble, et si on disait vivre ensemble, et si on pouvait vivre ensemble, je crois qu'on dirait
parfois ça divise, souvent ça rassemble.
Vivre ensemble.